VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 23 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Gabon, conférence de presse de l'ex-vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou, 24 heures après son limogeage par le président Ali Bongo Ondimba.
Au Niger, de nouveaux ennuis judiciaires en vue pour le chef de file de l'opposition en exil, Ama Amadou.
Libye, le président français Emmanuel Macron a reçu hier à Paris le maréchal Khalifa Haftar. Pas de cessez-le-feu en vue, les conditions n'étant pas réunies selon l'homme fort de l'Est libyen.
Ici à Washington, le président Donald Trump somme les parlementaires démocrates d'arrêter, je cite, leurs enquêtes bidons et menace de ne collaborer sur aucune initiative.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Gabon, 24 heures après son limogeage, l'ex-vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou s'est dit hier victime d'une cabale politique. Le leader du Parti social-démocrate a accusé l'entourage du président Ali Bongo Ondimba d'être à l'origine de son éviction. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obanze, nous en dit plus.
Pierre Claver Maganga Moussavou a retrouvé sa liberté de ton. Devant des journalistes, il a nié toute implication dans le scandale des conteneurs de bois Kevazingo.
Le scandale éclate. Le Tevazimo est au port. Il est bloqué. Comment il a fait pour partir de la forêt jusqu'au port? On devrait nous le dire parce que moi, je n'étais pas associé à tout cela.
Le leader du Parti social-démocrate dit être victime d'un complot politique et met en garde le chef de l'État, Ali Bongo, contre le sort qui vient de lui réserver.
Je lui bénis le droit de m'humilier. Parce que nous, nous connaissons. Je respecte les gens. Il faut que les gens me respectent. On peut demander du respect à tout le monde, mais pas à moi.
Moi qui ai souffert le calvaire pour amener la paix dans ce pays, je suis payé en monnaie de singe. C'est indigné Pierre Claver Maganga Moussavou, se opposant à Ali Bongo Ondimba, candidat malheureux à la présidentielle 2016 avant de se rallier à Jean Ping, avait été nommé conformément au résultat d'un dialogue politique avec une partie de l'opposition. Libreville, Ismaël Obianze, VOA Afrique.
En République centrafricaine, l'accord de paix entre les autorités et 14 groupes armés a été entaché par le massacre de plus de 30 civils dans l'ouest du pays. Il s'agit de la tuerie la plus grave depuis la signature le 6 février dernier de cet accord, dont l'application accumule les retards. Au moins 34 personnes ont été tuées dans une série d'attaques imputées au groupe armé 3R, Retour, Réclamation, Réconciliation, dans plusieurs villages autour de la ville de Paoua, dans le nord-ouest, près de la frontière avec le Tchad. Ce groupe prétend protéger les peuples.
Au Niger, de nouveaux ennuis judiciaires en vue pour le chef de file de l'opposition, Ama Amadou, qui vit en exil depuis 2016. Le gouvernement a décidé en effet de saisir un procureur pour l'ouverture d'une enquête pour, je cite, « propos diffamatoires et de nature à porter atteinte au moral des forces de défense et de sécurité en temps de guerre contre un homme politique ». Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le communiqué du ministère de la Défense nationale ne le nomme pas, mais c'est sans doute Ama Amadou que cette enquête va viser. En fin de semaine dernière, en effet, ce dernier, au cours d'une rencontre avec les militants de son parti politique tenu en Europe, a estimé que le gouvernement profite de la situation d'insécurité pour envoyer à la mort une certaine catégorie de soldats nigériens. Kalla Moutari, ministre de la Défense nationale.
Dans ce climat de péril général dans la sous-région, nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens de décourager nos soldats, dans le sens d'empêcher à nos soldats d'aller au front. Voilà pourquoi nous avons dit, quel que soit le citoyen qui porte ces propos, il participe de l'alliance avec les terroristes, que par conséquent, la justice du Niger doit le traiter comme tel.
Pour l'instant, le parquet de Niamey n'a pas communiqué sur la suite qu'il réservera à cette saisie du gouvernement. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Amnesty International a appelé hier les autorités mauritaniennes à libérer deux jeunes blogueurs proches de l'opposition. Abderrahmane Ould Ouedadi et Cheikh Ould Jiddou ont été arrêtés il y a 2 mois et poursuivis pour dénonciation calomnieuse envers le président Mohamed Ould Abdelaziz. Il reprenait depuis plusieurs mois sur Facebook des informations de la presse étrangère relatives au potentiel gel d'un compte bancaire par les autorités de Dubaï qui appartiendrait au chef de l'État mauritanien, ont rappelé mardi dans un communiqué leurs avocats.
Au Mali, des habitants de Bamako ont entamé hier un sit-in de 48 heures pour protester contre l'installation dans la capitale du nouveau quartier général de la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel. Pour rappel, le QG de cette force, lancé en 2017 par le G5 Sahel à Sévaré dans le centre du Mali, a été frappé le 29 juin par une attaque djihadiste et déménagé par la suite à Badalabougou, un quartier de Bamako.
En visite hier à Paris, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar a déclaré que les conditions ne sont pas réunies pour un cessez-le-feu autour de Tripoli. Il a rencontré à l'Élysée le président français Emmanuel Macron, qui a insisté sur la reprise du dialogue Bagassi Koura.
Lors des échanges en présence du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le maréchal a longuement expliqué et justifié, selon la présidence française, l'offensive militaire qu'il a lancée début avril sur Tripoli pour, a-t-il dit, lutter contre, je cite, les milices privées, les groupes radicaux dont l'influence grandit dans la capitale. Son autoproclamée armée nationale libyenne fait cependant face à la résistance des forces du gouvernement d'union nationale, reconnue par la communauté internationale et basée dans la capitale. Selon la présidence française, le maréchal Haftar a présenté à Macron la situation sur le terrain comme étant en progrès et en dynamique, affirmant qu'il consolidait progressivement ses positions. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part demandé à l'homme fort de l'Est de la Libye qu'une cessation des hostilités intervienne le plus tôt possible. Le maréchal Haftar ne s'est pas exprimé à l'issue de la réunion qui a duré un peu plus d'une heure.
L'ONG Save the Children a mis en garde hier la communauté internationale contre une nouvelle crise humanitaire en Somalie, où plus d'un million d'enfants vont souffrir de malnutrition à cause de la sécheresse si rien n'est fait. Nous savons ce qui va arriver. Nous savons également qu'il y aura des enfants parmi les victimes si nous n'agissons pas immédiatement, a affirmé dans un communiqué le directeur de Save the Children en Somalie, Timothy Bishop. Près de 2 millions de Somaliens ont un besoin désespéré de nourriture et des centaines de milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition à cause de la sécheresse qui frappe le pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a écourté hier une réunion à la Maison-Blanche avec les leaders démocrates du Congrès sur les infrastructures. Il leur a clairement fait savoir qu'il ne négociera pas avec eux tant qu'ils poursuivront l'examen du rapport Mueller sur les ingérences russes dans les élections de 2016. Les précisions de Lionel Gahima.
La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, comptaient faire le suivi de la réunion du mois dernier, lors de laquelle ils avaient convenu avec le président de mobiliser 2 000 milliards de dollars pour des infrastructures. Mais peu avant la rencontre, Mme Pelosi a fait savoir que les investigations en cours sur la base du rapport Mueller se poursuivront. Elle a accusé le président de se livrer à des manœuvres de dissimulation, des propos qui ont irrité le chef de l'exécutif américain.
Je suis entré dans la salle et j'ai dit au sénateur Schumer et à la présidente Pelosi, je veux conclure un accord sur les infrastructures. Je veux le faire plus que vous. Je serai vraiment bon à cela. C'est ce que je fais. Mais vous savez quoi? On ne peut pas le faire dans ces circonstances. Alors mettez fin à ces fausses investigations.
Au sortir du bureau ovale, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le sénateur Chuck Schumer ont déclaré à la presse qu'ils étaient venus de bonne foi pour continuer la discussion sur les infrastructures. La colère du président Trump était planifiée, a déclaré le sénateur Schumer au journaliste.
Ce n'était clairement pas une décision spontanée. C'était planifié. Lorsque nous sommes entrés dans la salle, les rideaux étaient tirés. Il y avait une place où le président devait se tenir pour nous dire pourquoi il n'allait pas discuter des infrastructures. Et bien sûr, il est allé dans les jardins de la Maison-Blanche où étaient placées des pancartes imprimées bien avant notre réunion.
Pour sa part, le président Trump assure avoir coopéré en toute transparence avec le procureur spécial Robert Mueller et avoir été exonéré par son rapport. Les démocrates du Congrès ne l'entendent pas de cette oreille et il est difficile de prédire quand leur bras de fer avec la Maison-Blanche prendra fin.
Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande du président Donald Trump et de la Trump Organization d'empêcher Deutsche Bank et Capital One de communiquer au Congrès des informations le concernant. Des commissions de la Chambre des représentants, contrôlées par les démocrates, avaient demandé aux deux banques, allemande et américaine, des documents concernant l'ancien promoteur immobilier et son groupe, la Trump Organization. Monsieur Trump, trois de ses enfants impliqués dans ses affaires et plusieurs de ses sociétés avaient alors saisi la justice, affirmant que la démarche n'avait qu'une motivation politique. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Sonangol, la société publique angolaise des hydrocarbures, vient de choisir Total et la maison de trading Trafigura pour assurer ses approvisionnements en produits pétroliers sur les 12 prochains mois. L'agence Ecofin assure que Total lui fournira de l'essence et Trafigura du gazoil. L'Angola dépend des importations de produits raffinés pour plus de 80% de sa demande totale en raison d'une très faible capacité de raffinage. Le Botswana a choisi Tlou Energy comme soumissionnaire privilégié pour développer une centrale électrique alimentée au métal de houille dont la production atteindra progressivement 100 MW. Ce projet démarrera par une capacité initiale de 10 MW. Ecofin écrit que Tlou exploite déjà le projet Lesedi au Botswana qui comprend 4 permis de prospection de charbon et de méthane de houille ainsi qu'un permis d'exploitation minière. La société possède également le projet Mamba qui comprend 5 mines de charbon et de méthane de houille couvrant environ 4500 km². Terminons avec le Parlement tunisien qui a approuvé l'émission d'un eurobond de 800 millions de dollars après le récent rejet de cette opération par la Commission parlementaire des finances. Selon Ecofin, l'émission vise à financer le déficit budgétaire du pays qui devrait atteindre 3,9% du PIB cette année contre 5% l'an dernier. La Tunisie, dont la dette publique a atteint 74% du PIB, a fixé ses besoins en financement extérieur à 2,5 milliards de dollars en 2019.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Asamoah Gyan de retour dans la présélection du Ghana.
Oui, retraité pendant près de 48 heures, Asamoah Gyan figure dans le groupe de 29 joueurs convoqués par le sélectionneur Kwesi Appiah pour préparer la CAN. Le capitaine des Black Stars est revenu sur sa décision de prendre sa retraite internationale sur une demande du président de la République Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Les frères André et Jordan Ayou figurent sur la liste du coach Appiah, tout comme Christian Atsu ou encore John Boy. Kevin Prince-Boateng et Souley Mountari ne sont pas de la partie. Le Ghana annonce le début de son stage pour le 1er juin à Abu Dhabi avec deux matchs amicaux contre la Namibie et l'Afrique du Sud.
Le Mondial 2022 au Qatar se jouera finalement à 32 équipes.
Oui, la FIFA a décidé que la Coupe du Monde 2022 au Qatar ne se jouera pas à 48 nations, comme le voulait entre-temps l'instance mondiale. La FIFA avait inscrit le passage de 32 à 48 équipes dès 2022 à l'ordre du jour de son prochain congrès en juin à Paris, mais a indiqué que dans les circonstances actuelles, une telle proposition ne pouvait être mise en œuvre. Le projet se heurtait à un obstacle géographique majeur avec le blocus imposé au Qatar par plusieurs pays voisins. Le Mondial 2022 conserve donc son format original avec 32 équipes.
Rudy Garcia annonce son départ de Marseille.
Oui, le technicien français a officialisé qu'il quittait ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique de Marseille à deux jours du dernier match d'une saison ratée contre Montpellier. Bien qu'il ait prolongé jusqu'en 2021 en octobre dernier, Rudy Garcia et son staff technique partent dès cet été, faute d'avoir rempli l'objectif principal de la saison, terminé au moins troisième pour se qualifier pour la Ligue des Champions. L'OM ne peut plus viser mieux que la cinquième place s'il bat Montpellier pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 et ne sera même pas qualifié pour la Ligue Europa.
Athlétisme, l'ex-manager du Kenya est suspendu.
Oui, Michael Rotchi a été suspendu 10 ans par la commission d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme pour corruption. Il écope en plus d'une amende de 5 000 $. L'ancien manager de l'équipe kenyane d'athlétisme aux Jeux de Rio est accusé d'avoir prévenu des athlètes de contrôle antidopage imminent en contrepartie d'une rémunération. Il avait été épinglé en août 2016 par un reportage du Sunday Times où il proposait à des journalistes qui se faisaient passer pour des agents d'athlètes de les prévenir en avance de futurs contrôles antidopage contre 10 000 $. Il a 21 jours pour faire appel devant le tribunal arbitral du sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le limogeage au Gabon du vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et du ministre des Eaux, des Forêts et de l'Environnement, Guy Bertrand Mapangu. Libreville n'a donné aucune explication sur cette décision du président Ali Bongo Ondimba, mais d'aucuns la lient, cette décision, à la disparition des 350 conteneurs de bois stockés au port de la capitale. Yakuba Ouedraogo a joint à Libreville l'analyste politique Barry Mbom.
Et son nom est apparu dans la liste des personnes qui ont été écartées du gouvernement et de la sphère étatique. Mais le motif, est-ce que c'est lié forcément à cette affaire de bois? On n'en sait rien, parce que le gouvernement n'a pas exactement communiqué sur les motifs du départ du vice-président de la République.
On sait que le vice-président, pendant la convalescence du président Ali Bongo, avait dit qu'il était disponible pour effectuer davantage de missions officielles. D'aucuns disent que cela n'aurait pas plu.
En réalité, on lit directement le départ du vice-président Mangam Moussavou à l'affaire du Kevasiro, dont ce bois précieux, qui est vraiment très très prisé et dont l'exploitation avait été interdite. Il se suppute qu'il aurait autorisé, mais je parle au conditionnel, il serait rentré dans les transactions de cette affaire et c'est la raison pour laquelle le président de la République l'a mis de côté.
On sait qu'en plus de lui, Guy Bertrand Mapangu a été limogé. On va rappeler qu'il était le ministre des Forêts et de l'Environnement. Est-ce qu'il a été clairement établi qu'il est impliqué dans cette question de disparition de conteneurs de bois?
Le départ du ministre d'État survient au moment où son directeur de cabinet a été directement impliqué dans cette affaire. Son directeur de cabinet, semble-t-il, après audition du procureur de la République, aurait été directement impliqué. Mais il faut aussi préciser qu'à la suite de la dénonciation publique de cette affaire par le procureur de la République, le gouvernement a demandé à tous les ministres et à toutes les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire de tirer les conclusions. À la suite de la note gouvernementale, le ministre d'État aux Eaux et Forêts a répondu en disant qu'il ne se sentait pas concerné. Et je crois que l'adresse qu'il a faite du point de vue des autorités a été très maladroite parce qu'il mettait encore le conditionnel dans une affaire que l'État décrétait être prouvée. Il disait par exemple que dans cette affaire supposée de détournement de bois.
On sait que sur les 353 conteneurs de bois disparus, il y a 200 qui ont été retrouvés cachés à différents endroits au port de Libreville. Qu'en est-il des 103 autres conteneurs?
Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'indication parce que le bois était sous main de justice. On sait par contre qu'il y a une vingtaine de conteneurs, 18 à peu près, qui auraient voyagé pour la Chine, mais on n'a pas une trace de la centaine d'autres conteneurs qui forcément sont cachés quelque part dans la République ou dans le port.
Et donc, jusque-là, aucune explication officielle sur ce qui se passe par rapport à ces conteneurs qui ont disparu.
Jusque-là, à Libreville, on n'a aucune explication officielle parce que les enquêtes se poursuivent en réalité. On a décelé qu'il y avait des conteneurs ça et là dans certaines sociétés et dont les conteneurs ne sont pas stockés à un seul endroit. On en débusque par-ci, par-là. Peut-être que, quelque part, les conteneurs se baladent entre Libreville et le reste du pays.
Joint à Libreville, l'analyste politique Barry Mbom.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, l'opposition a réagi à la déclaration du président Patrice Talon, qui a promis lundi, lors d'une allocution télévisée, d'engager des échanges francs et constructifs avec ses adversaires après la crise post-électorale qu'a connue le pays. Mais l'opposition estime que les conditions ne sont pas réunies pour dialoguer avec M. Talon. C'est du moins ce qu'a confié à Irénée Herman Oungbo, l'ancien député et secrétaire général du parti d'opposition Restaurer l'Espoir, Guy Dossou Midokpe.
Pour nous, il était quand même utile que le président puisse faire référence au puissant message que le peuple du Bénin lui a envoyé le 28 avril dernier, à savoir que le peuple n'était pas du tout d'accord avec l'exclusion des partis de l'opposition au cours de ces dernières élections. Et pour nous, il était aussi important qu'il puisse faire référence à la tuerie qui a été organisée dans un certain nombre de villes du Bénin, à savoir la ville de Cotonou et un certain nombre de villes du Nord, où, pour la première fois depuis 1960, l'armée a ouvert le feu sur des citoyens civils et non armés. Mais nous n'avons vu véritablement pas de compassion véritable de la part du président de la République, parce que pour nous, il s'agissait de dénoncer ce fait et de situer les responsabilités.
Le président Talon a promis cependant de tenir sous peu des échanges francs et constructifs avec l'opposition. Votre réaction ?
Non, la réaction de l'opposition s'est faite sans embâche hier, parce que nous avons trouvé que les conditions ne sont pas réunies pour un quelconque dialogue que ce soit. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, le président ne donne pas les garanties qu'il est sincère, ça c'est le premier point, il ne donne pas aussi les garanties qu'il est démocrate. Nous voulons discuter avec un démocrate. Donc tant que nous ne verrons pas la matérialisation que nous avons en face de nous, un démocrate, pour nous il est hors de question d'aller autour d'une quelconque table de négociation que ce soit.
Les députés ont été déjà installés. Trouvez-vous judicieux qu'on les révoque et qu'on organise à nouveau des élections ?
Non, pour nous, ce qui s'est déroulé le 16 mai dernier, c'est un non-événement. Parce que pour la première fois depuis 1960, on a assisté à une hyper-militarisation de l'Assemblée nationale. Je suis même allé jusqu'à dire que c'est une profanation de notre hémicycle, de ce lieu symbole de notre démocratie, de ce lieu symbole de notre liberté et de ce lieu symbole du combat de nos pères. Pour tous les résistants au Bénin, c'est un non-événement.
Quelles seront les conditions de l'opposition pour qu'elle participe aux discussions avec le gouvernement ?
La première condition, et nous l'avions dit dans la déclaration d'hier, c'est que le président de la République puisse procéder à la révocation pure et simple de ce qu'ils appellent la 8e législature. Et ensuite, nous donner des garanties sur les libertés et nos camarades qui sont détenus et tout le reste. Tant que nous n'aurons pas de garanties à ces nouveaux, pour nous, il est hors de question que nous puissions discuter avec le président de la République.
Mais jusqu'à quand allez-vous maintenir la résistance?
Le ballon est dans son camp désormais.
Joint à Cotonou au Bénin, Guy Dossou Midokpe, ancien député et secrétaire général du parti d'opposition, Restaurer l'espoir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, des centaines de camionneurs bloquent depuis lundi soir les accès de la capitale Ouagadougou. Ils contestent une décision du maire de la ville qui oblige désormais ces véhicules poids lourds à ne traverser la ville qu'entre 22h et 5h du matin. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
De longues files de plusieurs kilomètres de gros porteurs. Nous sommes à Boulmiogou, sortie ouest de Ouagadougou. Des chauffeurs ont décidé d'arrêter les moteurs pour dénoncer la décision municipale.
On fait beaucoup de pays, mais les autres pays, c'est pas comme ça.
Boukari Ouedraogo est un chauffeur.
Pas le Ghana même d'abord, tous les pays francophones, il y a des heures de pointe. Mais la journée, c'est réglementé. Oui, mais c'est de 5h de matin à 22h, voyez-vous, quand même. C'est difficile. En tout cas, on n'est pas d'accord. C'est très difficile à supporter, mais vous voyez. En fait, c'est à 5h du temps. Non, pas de 15h du temps, c'est pas possible. Un arrêt de 15h du temps, on ne peut pas le faire. Non, ils n'ont qu'à les voir, ils n'ont qu'à les voir. Sincèrement, ils n'ont qu'à les voir.
De 6h à 22h. Bon, vraiment, ça, quand même, ça ne nous arrange pas.
Souleymane Diallo est chauffeur malien, qui est juste en transit, a été pris dans le mouvement.
On est là depuis avant-hier. Arrivé ici, on a appris qu'il y a grève. Nous, les chauffeurs, ça ne nous arrange pas, surtout nous, les étrangers. On peut quitter au Mali, arriver ici, peut-être 18h, 19h. On se repose vers Porchec, après on va continuer. De venir ici, d'arrêter de 6h jusqu'à 22h, ça nous prend du temps parce que notre trajet, c'est long. Depuis au Mali jusqu'à Cotonou, c'est un peu long. De venir ici, de s'arrêter jusqu'à cette heure-ci aussi, ça ne nous arrange pas vraiment. Ils n'ont qu'à essayer de réduire encore.
À défaut de parking, ces véhicules sont stationnés sur les voies et perturbent sérieusement la circulation. Adama Traoré est usager.
Ça peut prouver d'accidents. Souvent même, ça bloque même beaucoup le travail avec les gens. C'est pas bon aussi.
Ouagadougou n'a jamais été aussi fluide qu'aujourd'hui. Et c'était l'effet que nous escomptions.
Le maire insiste que sa décision est bonne et va permettre de fluidifier la circulation et d'éviter que ces poids lourds provoquent encore des accidents.
On ne leur demande pas de circuler de 22h à 5h du matin.
Le maire Armand Bewende.
On leur demande, ils peuvent circuler à tout moment en dehors de la ville, mais la ville ne peut être traversée que de 22h à 5h du matin. Donc il y a une nuance qu'il va falloir faire et il va falloir être précis. Et je veux dire à ces transporteurs routiers, c'est d'ailleurs pas les transporteurs parce que le syndicat des transporteurs s'est désolidarisé de leur mouvement, ce sont les chauffeurs et ne veulent pas que nous régulons cette circulation dans l'hypercentre de la ville de Ouagadougou. Il y a 3 semaines de cela, nous avons eu de malheureux accidents qui ont causé la perte de deux ses élèves et qui a créé beaucoup d'émoi dans la population. Pendant une réunion encore avec eux, j'espère que nous allons pouvoir les convaincre à accepter ce nouveau règlement. C'est vrai que tout changement est difficile, mais la ville évolue, il faut que nous évoluions pour nous adapter aux nouvelles exigences de la volonté de la population.
En attendant, les camionneurs perturbent la circulation et les effets se font sentir ailleurs. Déjà, une pénurie de carburant se fait sentir dans des stations de la capitale. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Le Royaume-Uni a subi hier un revers cinglant à l'Assemblée générale de l'ONU, où une majorité de pays lui a demandé de rétrocéder sous 6 mois à Maurice l'archipel des Chagos. Diego Garcia, l'île principale de ce territoire, abrite une base britannico-américaine stratégique. Une résolution en ce sens, non contraignante mais à forte valeur politique, a été adoptée par 116 pays, 6 s'exprimant contre, dont les États-Unis et 56 États choisissant l'abstention. Les pays africains ont voté massivement en faveur de la résolution. Pour un décryptage, Jacques Aristide s'est entretenu avec Finlay Salès, rédacteur en chef de la station mauricienne Radio One.
Cela représente les derniers vestiges forcément d'une colonisation, parce que malgré toutes les violations qui ont été faites contre les lois universelles, contre les principes fondamentaux des Nations Unies, contre l'état de droit, l'Angleterre a toujours maintenu cet accaparement, cette domination et partant l'administration de ce territoire. L'Angleterre a troqué à l'époque avec le gouvernement travailliste l'indépendance contre une partie de notre territoire. Le gouvernement croyait qu'on allait, les Américains allaient établir ou les Anglais allaient établir à Diego une station météorologique. Les Anglais ont accaparé le territoire, loué ce territoire aux Américains et une base militaire a été installée sur Diego Garcia. Et pendant les années précédentes, cette installation, il y a eu excision qui rimait à l'époque avec déportation. Je crois pas que le terme soit désinvolte ou léger. Il y a eu déportation de tout un peuple chagossien. Comment on avait gazé, brûlé les chiens des chagossiens? Comment ceux qui étaient venus, qui prenaient le bateau pour avoir des soins médicaux à Maurice, n'étaient même pas au courant qu'ils n'allaient pas revenir? Comment tout ce beau monde a été parqué dans des navires et exporté vers Maurice dans des conditions que l'on sait, avec quelques compensations financières mal gérées au départ, qui, par exemple, a fait des Chagossiens des citoyens de seconde zone, parqués dans des dortoirs dans les banlieues portluisiennes.
Pour les Chagossiens, c'est un combat long de 50 ans. Vous qui suivez leur lutte, nous l'avons bien compris. Voyez-vous un dénouement en leur faveur pour bientôt?
C'est pas que je voudrais jouer au Cassandre porteur de mauvaises nouvelles. Il y a le cas de Nicaragua en 86. Où la Cour a donné raison au Nicaragua, mais les États-Unis n'ont absolument rien fait. D'autant plus que c'est un avis consultatif qui n'est pas contraignant, comme vous le savez. Comment forcer les Britanniques à nous rendre un territoire qu'ils ne veulent pas nous rendre? Et je crois que le gouvernement mauricien était très bien inspiré de dire, écoutez, pas de panique. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas le démantèlement de la base. Parce que cela représente un fer de lance, un bouclier pour la protection de la région. Tant mieux pour nous, à Maurice, qui sommes tout à fait vulnérables. Les Britanniques disent pour la sécurité. On veut bien me le redire, ben oui, d'accord, pour la sécurité. Nous, on ne veut pas démanteler la base. On veut négocier. Nous sommes les propriétaires. Vous, en tant que squatter, vous ne pouvez pas toucher l'argent de la location. Je crois que tout le monde comprend ça. Combien de Chagossiens qui restent qui voudraient retourner là-bas? Quelques nostalgiques, certainement, pour aller voir le cimetière, pour un besoin de retour au cahier natal, comme Césaire disait à l'époque. Donc ce dénouement-là, je crois que quand toute cette génération va disparaître, il ne restera plus personne pour aller vouloir retourner là-bas. Et puis, si la base est maintenue, quelle infrastructure, quel moyen de transport? Tout cela va certainement poser problème. Donc, le combat pour le retour des Chagossiens dans leurs îles natales va être encore très très long. Il y a beaucoup qui ne vont pas arriver jusqu'au bout, ne vont pas retrouver la terre promise.
Finlay Salès, rédacteur en chef de Radio One, joint à l'île Maurice. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.